Il est 2h du matin à Damas, 23h temps universel. Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est minuit. L'actualité du monde en 10 minutes sur la radio du monde. C'est avec vous, Mathis Slimano. Bonsoir Mathis.
Bonsoir Zéphirin, bonsoir à toutes et à tous. Des centaines de manifestants ont foulé le pavé à Damas, inquiets pour l'avenir de leur pays. Ils ont crié leur désir de démocratie. Reportage juste après les titres. Emmanuel Macron à Mayotte. Le président a annoncé un deuil national lundi prochain. Il a aussi promis que toutes les communes de l'archipel auront de l'eau et de la nourriture d'ici dimanche. L'acheminement de l'aide s'intensifie, on y reviendra également. Et puis la fin d'un procès historique. En France, celui des viols de Mazan. Les 51 accusés ont tous été reconnus coupables par la justice. Nous voulons la démocratie, pas un État religieux, ont scandé les manifestants ce jeudi à Damas. Ils étaient des centaines, hommes et femmes, à défiler, soucieux de participer à la Syrie de demain. Une Syrie libre et séculière, pouvait-on lire sur des pancartes. Mais dans le pays, l'incertitude plane. Quelle forme la transition va-t-elle prendre plus de 10 jours après la chute de Bachar el-Assad? Les islamistes d'Ayat Tahrir al-Sham donnent des gages d'ouverture, des appels adressés à la communauté internationale pour la levée des sanctions qui pèsent sur la Syrie, car après 13 ans de guerre et un demi-siècle de dictature, l'économie du pays est à l'arrêt. Reportage de nos envoyés spéciaux à Damas, Julien Boileau et Oriane Verdier.
L'homme que nous rencontrons dans un vieux bâtiment de Damas est cadre dans le système financier syrien depuis 30 ans. Mais malgré la chute de Bachar el-Assad, il préfère garder l'anonymat.
La confiance n'est toujours pas une option. Je me considère toujours comme un rebelle, même face aux nouvelles autorités. Donc je préfère faire attention.
Sous le régime Assad, il dit avoir eu l'impression d'être un simple automate au sein d'un système.
Les sanctions mises en place par les États-Unis visaient certaines personnes du régime Assad, mais ils l'ont utilisé contre le peuple syrien pour nous oppresser. Ils interdisaient, par exemple, toute exportation ou importation qui ne soit pas sous leur contrôle.
L'une des premières mesures économiques de l'autorité de transition a justement été de réduire les droits de douane et d'autoriser l'import-export. Mais pour notre interlocuteur, il faudra faire bien plus.
Les nouvelles autorités affirment vouloir aider tout le monde, mais je ne vois rien de concret pour l'instant. Avant de parler d'économie, il faut de toute façon se concentrer sur la vision politique du gouvernement. Les Syriens sont prêts à avoir faim, à se battre, mais uniquement si les visions politiques leur conviennent.
Pour l'heure, les Damascènes s'inquiètent de ne voir que des représentants des HTS au sein de l'équipe de transition. Julien Boileau, Oriane Verdier, Damas, RFI.
En Syrie, le chef de l'ONU voit une lueur d'espoir et cette lueur ne doit pas s'éteindre pour Antonio Guterres, qui a également déploré lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU un Moyen-Orient ravagé par de nombreux feux. Dans ce contexte, cette menace mise à exécution ce jeudi par Benjamin Netanyahou, celui qui frappe Israël paiera le prix fort, avait prévenu le Premier ministre après 2 tirs de missiles Houthis vers son territoire. En réponse, des ports et centrales électriques visées au Yémen par l'aviation israélienne ont fait 9 morts. Par ailleurs, Washington rejette les accusations de génocide contre Israël. Dans un rapport, l'ONG Human Rights Watch l'avait accusé d'actes de génocide dans la bande de Gaza, notamment en privant la population d'un accès normal à l'eau. Ces accusations interviennent 2 semaines après un rapport similaire d'Amnesty International, des conclusions déjà jugées infondées par Washington. À Mayotte, toutes les communes touchées seront approvisionnées en eau et nourriture d'ici dimanche. La promesse d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, est arrivée ce jeudi dans l'archipel dévasté en fin de semaine dernière par le cyclone Chido. Il a aussi promis de rebâtir Mayotte. Mais d'ici là, l'heure est à l'urgence. Les ponts aériens et maritimes mis en place montent en puissance. Un avion cargo doit acheminer dans les prochaines heures un hôpital de campagne. Chaque jour, des gros porteurs A400M décollent de leur base d'Orléans en direction de l'océan Indien. Les précisions du colonel Guillaume Vernet de l'état-major des armées, il est au micro de Franck Alexandre.
C'est un A400M par jour qui décolle de Brécy et ensuite qui fait des rotations jusqu'à Mayotte. Chaque avion fait un arrêt sur Djibouti et lorsqu'il est sur place, il fait plusieurs allers-retours pour optimiser sa charge entre La Réunion et Mayotte. Le premier A400M qui a décollé d'Orléans reste sur place pendant 7 à 14 jours pour pouvoir réaliser quotidiennement 1 à 2 rotations entre Mayotte et La Réunion. En plus de ces A400M, il y a donc des avions CASA qui eux sont stationnés en permanence sur La Réunion, qui depuis le premier jour réalise des rotations entre Mayotte et La Réunion.
Quel est le volume de fret qui a été apporté ?
Ce matin, il y a deux avions qui décollent. Particularité d'aujourd'hui, ça devrait être un décollage de 2 à 400 m depuis la métropole. On est de l'ordre de plus de 150 passagers et un peu plus de 100 tonnes de fret qui ont été acheminés. Il faut bien se rendre compte que ce n'est pas tant le poids qui est intéressant, mais il faut bien imaginer que la 400 m est là pour amener des éléments volumineux, typiquement des véhicules qui ne pourraient pas être déjà sur place.
Et sachez que plus de 1000 réservistes de la santé, des infirmiers, soignants, ingénieurs, se sont portés volontaires pour partir à Mayotte, d'après le directeur général de la santé. Le bilan provisoire des victimes est de 31 morts, mais pour Emmanuel Macron, il est vraisemblable qu'il y en ait beaucoup plus. Le président qui a décrété une journée de deuil national lundi prochain. Retour en métropole, avec l'image du jour, celle de la dignité de Gisèle Pellicot à la sortie de la cour criminelle du Vaucluse. Clap de fin d'un procès hors norme, celui des viols de Mazan, le mari de Gisèle Pellicot, Dominique Pellicot, a été reconnu coupable d'avoir drogué, violé et fait violer sa femme par des dizaines d'hommes. 20 ans de prison pour lui, la peine maximale, mais pour les 50 autres accusés, les peines sont bien moins lourdes que celles requises. Bertrand Éclair et Baptiste Coulon étaient devant le tribunal lors de l'énoncé des peines.
Un slogan clamé d'une même voix par 200 personnes rassemblées devant le tribunal. À distance, elles suivent l'énoncé des peines quand vient celle d'un des accusés.
8 ans, mais c'est rien !
Une femme laisse éclater sa colère.
Il a violé son ex-femme ! C'est quoi ce pays ? J'ai gueulé, je suis dégoûtée !
Aucun acquittement, mais des peines moins lourdes que celles requises et 6 accusés qui ressortent libres. Une victoire pour la défense que déplore Stella.
Pour les victimes, ça reste un coup de poignard en plus et c'est encore un exemple parfait du traitement que la justice française réserve aux victimes de violences sexistes et sexuelles.
Un verdict loin d'être à la hauteur, estime Muriel. Pour cette membre du collectif féministe Nous Toutes, le message envoyé aux victimes par l'institution judiciaire est désastreux.
On a une justice qui est archaïque, qui n'utilise pas les bons concepts pour comprendre c'est quoi en fait les violences sexistes et sexuelles. C'est juste incompréhensible et quelque part un peu honte aussi par rapport aux autres pays. Parce qu'ils doivent se dire, la France, ils sont encore en retard quoi.
Une heure plus tard, Gisèle Pellicot est acclamée par la foule à sa sortie du tribunal.
C'est la seule chose positive de la journée, c'est de lui dire encore merci, merci, et on continuera à être présente.
Elle parvient à se frayer un chemin entre les caméras et les micros et s'éloigne en silence. Avignon, Baptiste Coulon, Bertrand Éclair, RFI.
Invité sur France 2, François Bayrou a rendu hommage à Gisèle Pellicot, le Premier ministre français qui a également promis de proposer un gouvernement dans le week-end, en tout cas avant Noël. Il a reçu ce jeudi les partis politiques à Matignon, excepté le Rassemblement National et la France Insoumise. François Bayrou s'est notamment engagé à ne pas utiliser le 49-3 sauf blocage absolu sur le budget, budget dont il espère l'adoption à la mi-février. L'actualité aussi marquée par cette petite révolution à Cuba. Le gouvernement vient d'annoncer le rétablissement d'un taux de change flottant pour le peso. Une nouvelle tentative pour le régime communiste au pouvoir depuis 65 ans de sortir l'île de la crise économique dans laquelle elle s'enfonce. Nathanaël Vitran, l'inflation très élevée pèse particulièrement sur la vie quotidienne des Cubains.
Oui, sur un an, les prix ont encore augmenté de près de 30% en octobre. C'est certes moins pire qu'en 2021, quand l'inflation frôlait les 70%, mais cela reste très préoccupant. Une inflation alimentée par le décalage entre le taux de change officiel, fixé à 120 pesos pour un dollar, et la réalité du marché informel, où il faut 320 pesos pour obtenir un dollar. C'est une réalité nouvelle pour les Cubains. Ces marchés parallèles sont apparus en même temps que l'arrivée d'acteurs privés dans une poignée de secteurs après des décennies d'économie administrée à 100%. Un an après ces réformes qui sont loin d'avoir sorti Cuba du marasme économique, le Premier ministre Manuel Marrero a expliqué qu'il était nécessaire de laisser le taux de change varier en fonction de l'offre et de la demande, tout en précisant que cela se ferait de manière progressive. En attendant, la crise pousse de plus en plus de Cubains à l'exil. La population de l'île est tombée en juillet dernier sous la barre des 10 millions d'habitants.
Nathanaël Vitran est toujours en économie. Les États-Unis vont-ils passer Noël sous shutdown ? Cette paralysie des services publics, c'est en tout cas ce qu'ont fait craindre les propos de Donald Trump. Il s'était opposé à un accord budgétaire au Congrès. Mais il y a quelques heures, le président élu a annoncé soutenir un nouveau texte proposé par son camp, les Républicains. Le Congrès doit désormais adopter le texte avant vendredi soir pour éviter le shutdown. Il est presque minuit 10 ici à Paris, une heure de moins en temps universel.